des initiatives qui sont l'émanation d'une imagination un peu débordante, mais qui nous semble être un tout petit peu en déphasage avec les attentes des seniors, des personnes âgées, des personnes avançant en âge, selon comment on les appelle. Et on en parlait à déjeuner, c'est, je crois, Pascal Dreyer qui avait une excellente illustration de ce type de projet. Je ne sais pas si vous voulez en donner l'exemple.
Parlez-nous d'une napperon numérique.
Ah oui, voilà, c'était il y a quelques années, pour ceux qui s'en souviennent encore, il y a eu une invention qui a été soi-disant très utile pour les personnes âgées, c'était le web napperon. C'est-à-dire qu'il y avait un ingénieur qui avait eu l'idée, dans sa représentation, les personnes âgées étaient forcément des grands-mères qui tricotaient des napperons. Et donc forcément, pour faciliter leur accès au numérique, il fallait équiper un napperon qui devenait le web napperon. Et pour moi, c'est tout à fait l'exemple de la fausse bonne idée. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté une très mauvaise représentation de ce que sont les personnes âgées aujourd'hui. Je pense qu'on n'a pas besoin de bêtifier pour leur permettre d'accéder aux technologies et aux services liés aux technologies. Et de l'autre côté, ça identifiait une sorte de marché un peu fantomatique ou même pas existant, parce que qui aujourd'hui peut imaginer qu'il y a suffisamment de vieilles dames en France qui vont avoir envie d'appuyer sur un napperon pour accéder à Internet ? Voilà, donc le web napperon, ça me paraît être tout à fait la fausse bonne idée qu'il faut traquer partout pour éviter de développer des freins, des obstacles aux technologies.
Ouais, donc, enfin, merci du coup pour cet exemple qui est vraiment très parlant. Et donc on se posait la question de l'acceptabilité de ces silver technologies d'un point de vue financier, évidemment, parce qu'il faut que ce soit compatible avec les portefeuilles des personnes qui sont concernées, mais aussi en termes d'acceptabilité sociale, c'est-à-dire finalement est-ce que le client potentiel y reconnaît la réponse à un besoin qu'il soit avéré ou potentiel. Et puis, il nous semblait aussi qu'il était important de regarder dans quelle mesure cette silver technologie allait s'intégrer dans l'environnement de la personne et potentiellement impacter cet environnement. Et finalement, est-ce que ça n'allait pas dénaturer, ou en tout cas on s'intéresse à la façon dont ça va modifier le lien que la personne entretient avec son lieu de vie ou avec son entourage. Voilà, c'est pour ça que ce sujet nous semblait être intéressant à traiter.
Mais il l'est, merci Thomas. Alors on va peut-être essayer de recadrer un peu le sujet avec les deux experts qui sont à ma droite. Muriel Boumier, vous avez rédigé plusieurs rapports sur la question du vieillissement, et récemment vous avez sorti un livre très drôle, je le dis parce que moi ça m'a beaucoup amusé, ça s'appelle « Arrêtez de nous prendre pour des vieux », qui vise à casser les clichés, parce que tout le monde connaît le poids des stéréotypes. Je crois que même que Einstein aimait à dire qu'il est plus facile de briser un atome qu'un préjugé, c'est dire si les visions qu'on a sur les vieux ou les personnes âgées sont persistantes. Et l'exemple de Pascal à l'instant avec le web napperon en était une excellente illustration. Donc dites-nous de quoi parle-t-on quand on parle de silver technology pour les personnes âgées. On s'adresse à qui et on parle de quoi?
Bonjour à toutes et à tous. Alors, d'abord, moi, mes performances en chimie, briser l'atome, ce n'était pas mon objectif. Il faut quand même replacer les choses dans leur perspective. Et ce livre, je l'ai fait, en effet, après deux missions ministérielles très sérieuses. Voilà. Et vous savez, quand on fait des choses sérieuses, on se retrouve face à des salles comme celle-ci, où en général, des gens sincères s'expriment. Et là, je me suis rendu compte que ce qui était exprimé, c'était nos prisons de nos propres stéréotypes. Et donc, dans le dialogue, on les casse, les stéréotypes, mais quand ça vous revient comme ça, 20 fois, 30 fois, vous dites, ben, on va prendre les 10 qui reviennent sans arrêt, c'est ce que j'ai fait, et j'ai voulu les casser, et j'ai dit, arrêtez de nous prendre pour des vieux, parce que il y a une phrase qui se colle à ça aussi, mais enfin, chacun a le droit de la traduire, hein, bien entendu. Alors, la silver economy, c'est une résultante. C'est une résultante, d'une part, pour s'adapter trop vite à un phénomène ancien pour lequel nous n'avons rien vu. Alors, nous n'avons rien vu parce qu'on ne voulait pas le voir, hein, bien entendu, parce que ça fait 20 ans que les statistiques nous disent « Mais attention, on va être vieux ». Alors, en France, c'est un peu différent d'en Allemagne, du Japon ou de l'Europe de l'Est, parce que la France en effet vieillit, mais dans le même temps, ce taux de natalité permet le renouvellement de population. Alors, c'est vrai, On vieillit, mais on vieillit en relatif. Il n'empêche que le vieillissement est quand même une réalité et que aujourd'hui, presque un quart, hein, c'est-à-dire un quart de moins de 20 ans, un quart de plus de 60 ans, et que en 2030, ce sera un tiers, un tiers, un tiers. Et on ne peut quand même pas passer à côté d'un quart de la population. Alors, voilà, comme le disait Pascal Raya il y a un instant, eh bien, il y a tous ceux qui réfléchissent. Et ceux qui réfléchissent, la première chose qui vient à l'esprit, mais c'est pareil, hein, c'est il y a 20 ans que ça vient à l'esprit, c'est de dire les vieux sont nombreux, ça fait un marché. Et ça, alors, moi, je veux dire que ça fait 20 ans, pas tout à fait 20 ans que moi je l'entends, mais en tout cas, ça fait 20 ans qu'il y a des colloques, des écrits là-dessus, et on dirait une terre promise qu'on n'a pas encore trouvée. Et la filière économie, ça se greffe là-dessus. Et donc, moi, je me dis d'abord, les plus de 60 ans, ouvrons le regard, et c'est un nouveau monde à conquérir. À conquérir par qui ? À conquérir par les plus de 60 ans eux-mêmes, mais également à ce que les autres les observent et les prennent pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'il y a... Prenez, moi, mon film préféré, mon panthéon du cinéma, Les Tontons Flingueurs. Eh bien, à l'époque des Tontons Flingueurs, le vieux, c'était le lien affectif avec les parents, les grands-parents, et qui est devenu aujourd'hui le péjoratif extrême. Et donc, du coup, comme on est quand même plutôt bien élevé, alors on dit plus les vieux, c'est fini. Mais on dit quoi ? Les seniors ? Bon, ça, quand même un peu limité. Les personnes âgées, alors on dirait que la vie est un combat, et dans ces cas-là, faut pas se prendre la tête. On dit c'est les vétérans, vous comprenez, les rescapés, ça se respecte. Et donc, moi, je trouve que cette génération, ce qui la caractérise aujourd'hui, c'est que c'est une génération sans nom. Et donc, comme elle est sans nom, on ne la classe pas, et comme on ne la classe pas, eh bien, on arrive avec des choses un peu toutes faites. Alors, la silver economy en est une, mais également, regardez, on attendait beaucoup de la réforme des retraites. La réforme des retraites, on nous disait, il y a trois objectifs prioritaires. L'un d'entre eux, c'est les femmes. Bon, on en reparlera peut-être, c'est important. Eh bien, l'objectif, il est reporté à 2020. La priorité, c'est relatif, c'est comme l'âge. Et puis ensuite, nous avons en effet... Alors, tout ça s'inscrit dans la silver economy et le logement. Le logement, il ne faut pas se tromper de cible. 31 millions de logements en France. Un taux de renouvellement de à peu près 300 000 logements, c'est-à-dire un taux de renouvellement de 1%. Dans ces 1%, tous ne sont pas adaptés à l'âge. Donc l'enjeu, c'est l'offre nouvelle pour une toute petite partie, et l'enjeu, c'est l'adaptation de l'existant. Et donc, c'est cette adaptation de l'existant-là qui va faire le maintien à domicile en confort et en sécurité. Les silver économies, oui, mais avant, faisons donc en sorte que ce ne soit pas la personne âgée qui s'adapte au logement, mais que ce soit le logement qui s'adapte à la personne âgée, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas obligée de déplacer son lit dans le salon ou d'abandonner la salle de bain pour faire sa toilette dans le lavabo. Et la silver economy, oui, mais qu'elle ne prenne pas en compte cette approche quantitative sous prétexte qu'un quart aujourd'hui, 30% dans à peu près 15 ans, parce que, attention, il y a l'effet double, génération et culture, 1927, 1940, 1960, ce sont, oui, des générations différentes, bien sûr, mais ce sont aussi des cultures générationnelles différentes. C'est-à-dire que les générations, elles s'inscrivent dans l'histoire de leur propre vie. Et donc, on ne peut pas globaliser en disant il y aura tant de vieux, ça fera tant de milliards de marchés. La deuxième chose qu'il faut quand même prendre en compte, c'est que la consommation à l'âge avancé, ça n'est pas la surconsommation, y compris pour ceux qui vieillissent et qui ont été jeunes au moment de la société de consommation. Les personnes âgées consomment avec un objectif qui est l'efficacité. L'efficacité pour leurs besoins propres, l'efficacité, comme en parlera évidemment très bien Pascal Dreyer, pour les aidants, pour leur environnement. Et donc, la silver economy, oui, mais approchons les équipements avec simplicité. Ne faisons pas l'échec de la domotique de 1970 qui, faisant l'objet d'un sondage il y a 3 ans, était encore considérée par les personnes, donc toutes générations confondues, comme élitiste et trop chère. Et puis, ensuite, passons par les étapes indispensables, la téléalarme. La téléalarme, 10% en France, 80% en Suède. Pour la silver economy, par pitié, arrêtons les expérimentations. Les expérimentations, vous mettez le financement des expérimentations bout à bout, ça vous finance une politique. Donc, peut-être qu'on pourrait essayer de changer le panorama. Et puis enfin, regardez le Canada. Le Canada, 35 millions d'habitants, nous 68 millions. Eh bien, 60 millions de dollars, nous pour le moment à peu près 2 millions. Enfin, voilà, cherchez les erreurs. Donc, moi je ne suis pas pour une vision passéiste, pas du tout. Pas du tout. Simplement, je demande qu'avant un effet qui est un effet d'espoir, hein, parce que s'occuper du vieillissement, c'est un effet d'espoir. Vous savez, le vieillissement est tellement long aujourd'hui qu'il repousse l'âge de la vieillesse et par là même la dépendance. Et donc mon dernier propos sera, évitons la synonymie de langage et les passeports de l'âge. Les passeports de l'âge, c'est la carte qu'on nomme toujours vermeille si elle ne l'est plus, mais la réduction à 60 ans. Et puis, la synonymie, c'est vieillissement, vieillesse, dépendance. Et hop, on va au raccourci, on ne prend que le dernier. Et là, on revient, on fait un bond en arrière. On revient à 1950, quand la retraite était à 65 ans et l'espérance de vie à peu près du même âge. Et donc, rien de passéiste à ça, mais une approche pragmatique, parce que ça n'est qu'avec une approche pragmatique que la silver economy rencontrera enfin son marché.
Merci beaucoup. Je vous les laisse, vous ne les avez pas volés. Alors, on parlera moins de la réforme des retraites, si vous le voulez bien.
J'en ai pas parlé.
Non. Petite incartade sur les femmes, mais officiellement, je vous soutiens. Pascal, d'ailleurs, parce que ça a été abordé par Muriel, donc elle dit que vous allez nous parler des aidants, mais peut-être dans un premier temps comprendre qu'en réalité, pour continuer la déconstruction des clichés, réfléchir par silo d'âge sur la question des silver technologies, c'est absolument pas pertinent. Il faut réfléchir par silo d'adaptation aux technos, en fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des technophiles de 70 ans et il y a des technophobes de 60.
Oui, alors, il y a plein de questions dans ce que vous venez de dire, Vincent. Moi, je parle de ma position de coordinateur de Leroy Merlin Source, qui est le réseau de recherche de Leroy Merlin sur les problématiques d'habitat, et on travaille depuis presque 10 ans sur un sujet qui s'appelle habitat et autonomie. Donc nous, la question de la cible ou du marché concernant l'adaptation du domicile, elle s'est posée très vite, et on s'est dit, au fond, quand on parle d'adaptation du logement, à qui on s'adresse ? Et pour faire part d'une expérience qu'on a conduite, on a conduit en magasin ce qu'on appelait au début des années 2000 des débats en magasin sur le bien vieillir chez soi. On n'avait évidemment jamais personne. Quand on faisait le même débat sur maîtriser ses consommations d'énergie, on avait énormément de monde. Donc évidemment, personne ne veut se voir vieux et on est dans une société où personne ne s'imagine vieux. Le vieux, c'est toujours l'autre. Et c'est l'autre assez vite. Alors ce qu'on a évoqué dans la préparation de ce débat, c'est qu'il faut simplement se dire qu'en France, on a une idée du fait de devenir vieux lié au couperet d'âge de la retraite, l'âge administratif de 60 ans, que les Français dans les études d'opinion ont bien compris qu'on était vieux plutôt autour de 72-73. À chaque nouveau sondage apporte une augmentation de l'âge auquel ils pensent que l'autre est vieux. Et on voit bien qu'aujourd'hui dans les EHPAD, les personnes âgées qui rentrent en EHPAD ont plutôt autour de 85-86 ans. Donc on voit bien que la question du fait d'être vieux, c'est une donnée éminemment variable en fonction de l'analyse qu'on veut porter et en fonction de l'état des personnes. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il y a un sentiment du vieillir plus que du vieillissement qui se produit au moment de la cessation partielle ou totale d'activité. Et donc, quand les individus reviennent chez eux, vivre avec leur conjoint. Donc là, il y a un premier sentiment du vieillir, qui n'est pas celui du sentiment d'être vieux forcément, hein, Il y a une deuxième étape qui est celle de la rencontre, ce qu'on disait tout à l'heure à table, et ça faisait rire mes petits camarades, c'est quand l'homme revient chez lui à la maison, il pense que c'est sa maison, mais en fait ça fait 40 ans que c'est pas la sienne, mais celle de sa femme. Et donc il n'a pas d'espace pour ses activités. D'où les pics de divorce qu'on voit pas mal autour de 65-70 ans, et les reconfigurations conjugales qui sont difficiles pour les enfants. Et puis on a une mobilité géographique qui montre que les gens ne se sentent pas vieux à cet âge de la retraite, c'est qu'ils partent généralement dans leur résidence secondaire ou vers les rivages entre 58 et 65 ans. Et puis on a par contre une vraie mobilité d'ajustement liée au sentiment de vieillir qui se produit autour de 70, 72, 73 ans, quand les personnes rencontrent le veuvage du conjoint, le décès du conjoint, donc se retrouvent en situation de veuvage, ou les premiers accidents de santé et l'irruption notamment des pathologies comme le cancer. Donc on voit bien que le fait de se sentir vieux ou de se sentir vieillir, c'est multifactoriel. C'est lié à des étapes de la vie qui sont socialement partagées, être ou plus dans le monde du travail, avoir des activités d'engagement ou pas, etc. C'est lié à des accidents de santé ou à des accidents de la vie de famille. Et ensuite, c'est lié à vraiment sa place, la prise de conscience de sa place nouvelle dans la génération. Donc je pense qu'il faut prendre tous ces éléments-là sur l'horizon de l'allongement de la durée de la vie, qui fait que globalement, tous ces curseurs ne cessent de se déplacer et qu'ils vont évidemment se déplacer vers une avancée de plus en plus lointaine pour les cadres et les classes supérieures, et qui va rester quand même relativement proche de l'âge de la retraite et fragile pour les personnes qui ont eu des parcours professionnels plutôt difficiles, lourds, compliqués. Donc ça, c'est pour répondre à la question de « à quel âge est-on vieux ?» au fond, sur le sentiment du vieillir, à part le fait qu'on dit qu'on vieillit dès qu'on est né, parce qu'on prend chaque jour un jour de plus, on ne peut pas vraiment dire à quel âge on est vieux.
Alors, Muriel, à l'instant, nous disait qu'en fait, les vieux ne sont pas des... Je suis désolé, j'emploie le terme, parce que sinon, on va faire des périphrases, ça va être trop long. Ne sont pas des surconsommateurs, mais consomment responsables et intelligents. Et en gros, ce que vous me disiez, c'est que pour la technologie, c'est pareil. C'est-à-dire que le besoin crée le produit. Par exemple, si vos enfants sont loin, vous allez vous mettre à utiliser Skype. C'est
ça ? Alors moi, j'aime bien donner ces exemples-là. Les générations actuelles qui ont entre 70 et 75 ans sont toutes équipées, en général, d'un ordinateur et savent gérer à peu près leur boîte mail. Alors, Muriel montre très bien dans son livre comment le web humoriste Cyprien se moque de ses parents, qui sont plutôt ses grands-parents en fait, et les deux, qui confondent utiliser la fenêtre sur l'écran et ouvrir la fenêtre, qui veulent jeter un document dans la corbeille et jettent une feuille de papier. C'est un peu caricatural, ça se rend compte sûrement encore, mais c'est quand même pas la majorité. Aujourd'hui, même, j'imagine, dans les formations de la FNAC, plus personne ne confond son texte mail et le texte Word. Plus personne confond. Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que les gens utilisent les nouvelles technologies en fonction de leurs besoins réels et pas comme les générations les plus jeunes, par des effets de mode, des effets de sentiment de modernité ou le désir d'être absolument up-to-date. Ça, c'est très important. Et notamment, il suffit qu'il arrive un événement grave pour que se mette en place l'accès à un nouveau service. Alors, l'exemple le plus proche que j'ai, c'est un couple de personnes âgées, enfin moi je les trouve âgées pour moi, elles ont 74 et 76 ans, et le mari a eu un cancer cette année. Et ce qui était très frappant, c'est qu'ils utilisaient les mails pour donner un certain nombre d'informations, ils ont reçu le dossier médical et les informations médicales sur leur boîte mail, donc ça ils ont pu gérer ça extrêmement bien, mais leurs enfants sont partis en vacances, se sont éloignés, et là soudain il y a eu un sentiment de panique. Comment est-ce qu'on fait si les enfants sont loin alors qu'on est en pleine radiothérapie et chimiothérapie ? Eh bien, alors que ça ne leur était jamais venu à l'idée et qu'ils n'en avaient pas la représentation, ils ont demandé à ouvrir un compte Skype, ce qui a permis à ces personnes d'utiliser Skype et de rester en lien à un moment extrêmement difficile en contact avec leurs enfants. Un autre exemple qui vient du champ du handicap et que je trouve assez fascinant et qui va rejoindre la silver economy sur son côté moins positif, mais plutôt du côté de la conception, c'est qu'il se trouve que je travaille beaucoup avec des personnes en situation de très lourd handicap, qui ne sont donc pas des personnes âgées, mais des personnes qui sont dépendantes d'outils technologiques pour leur vie quotidienne. Et un de mes amis a eu un nouveau respirateur. Donc il a une amyotrophie spinale, il a 57 ans, ça fait 37 ans qu'il survit, et il a donc un nouveau respirateur. Ce qui est absolument fascinant, c'est que ce nouveau respirateur lui a été vendu comme permettant toutes les configurations possibles et très électronique. Donc c'est le respirateur qui doit lui permettre de vivre mieux. Sauf que les ingénieurs qui ont conçu ce respirateur n'ont pas du tout pensé qu'il allait vivre à domicile ou qu'il vivrait à domicile. Donc lui, sa problématique, c'est qu'il a dû former 5 auxiliaires de vie différentes à la manipulation du respirateur, avec la marge d'erreur inhérente à 5 personnes différentes manipulant une machine sensible. Il a à peu près 4 minutes d'autonomie de respiration quand il est débranché. Donc lui, en fait, le nouveau respirateur a accru son risque vital. Et comme la machine est très perfectionnée, mais qu'elle est aussi plus sensible, y compris au chaud et au froid, elle se dérègle plus facilement que l'ancien respirateur. Et donc là, je me suis dit, à quoi et à quel besoin on a voulu répondre? Est-ce qu'on a voulu répondre au fait que ces respirateurs devaient être vendus uniquement en service hospitalier, température constante, infirmières formées, s'occupant de ce genre, aides-soignantes formées? Ou est-ce que on a pensé éventuellement au domicile, mais je ne pense pas. Et donc l'aide technique vitale pour ces personnes qui sont de plus en plus nombreuses à vivre à domicile est évidemment complètement inadaptée ou fait prendre des risques inutiles à l'ensemble. Voilà, c'était ce qui me paraissait important de souligner ici, c'est que ma question, c'est la technologie permet aujourd'hui à des personnes qui ne pouvaient vivre qu'en milieu hospitalier de pouvoir vivre chez elles, et ça c'est formidable, mais il faut absolument que les concepteurs imaginent que ces technologies sont manipulées non plus par des soignants, mais par des proches, avec la marge d'erreur propre aux proches, qui se forment, qui sont de plus en plus performants. Le couple âgé dont je vous parlais, pour alléger la présence des infirmiers, l'épouse de cet homme a fini par changer les poches alimentaires, puisqu'il est, l'homme était alimenté par son gastrique, a fini par changer les poches toute seule, à 76 ans. Donc ça veut dire que face à une petite machine à galets, des tuyaux qui se bougent tout le temps, les épanchements gastriques, et je vous en passe. Donc ça veut dire que les gens sont capables de s'adapter en situation à une technologie. Mais simplement, ce qu'il faut, c'est bien la penser, et bien penser que ce sont des néophytes qui vont s'en occuper, puisque la silver economy, si elle veut se développer, elle doit se développer non pas sur la base de professionnels seulement, mais sur la base du tout venant, puisque ce sera vous et nous qui allons utiliser ces technologies. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc c'est la grande question des interfaces à la complexité, hein. Je pense que à la complexité des systèmes socio-techniques, mais aussi la complexité face au réseau des soignants qui peuvent intervenir à travers ces nouvelles technologies jusque dans le domicile. Donc moi, mon dada, Muriel Boulmier le sait, et je vais m'arrêter là, c'est que les nouvelles technologies rendent poreux les murs du domicile et donc reconfigure l'imaginaire du domicile et du chez-soi des personnes. Et je pense qu'il y a de gros... c'est le travail qu'on mène avec Réunica sur les personnes très âgées. On mène un travail de recherche sur la façon dont la conscience du chez-soi évolue avec l'âge et dont les nouvelles technologies peuvent affecter ou pas la question de la conception du domicile.
Merci beaucoup. Effectivement, maintenant, je crois qu'on a tous un petit peu plus avancé sur le sujet. On voit bien ce qu'est un vieux, on voit quelles sont les limites de la technologie, mais les limites aussi positives. Vous nous avez permis de reconfigurer tout ça et puis vous avez montré donc quelles étaient les grandes étapes avec ce pic de divorce à 65 à 75 ans.
Non, mais ça, c'est une préoccupation de garçons, parce que les garçons sont évidemment abandonnés. Mais Vincent est très frappé par ça, alors qu'il n'est encore pas concerné.
Disons que j'angoisse par anticipation, mais c'est pas grave. Je vois que la technologie s'est adaptée, puisque Mythique enregistre une très forte augmentation de ses
Alors Vincent, juste pour dire une chose,
de 60 à 70 ans.
Oui. Juste pour dire ça, c'est un très important, mais Bernard Ennuyé, que certains d'entre vous connaissent sûrement, dit « Attention, les vieux sont des vieilles ». N'oublions pas ici que tous les hommes qui sont là, quand leurs femmes auront 90 ans, ils seront globalement plus là. Donc vous serez seuls, mesdames. Donc il faut que vous puissiez être des usagers très pertinents qui permettront la création d'outils adaptés à qui vous êtes.
Les vieux sont des vieilles. Un bon raccourci. On va passer sur des expérimentations pratiques et technophiles. Peut-être avec vous d'abord, Vincent Caillol, vous êtes l'initiateur de Voisins Solidaires. Ça doit vous parler, la formule de Pascal Dreyer, la technologie rend poreux les murs du domicile. C'est un peu l'idée qui préconfigure la naissance de Génération Voisin, non?
Oui, bien sûr, ça rend poreux les murs. Et puis qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du mur? Eh bien, il y a le voisin. Et j'ai bien aimé aussi ce que disait Pascal Dreyer sur les concepteurs de technologie, hein, ils doivent s'habituer au fait que ce sera le tout venant qui va s'en servir, et le tout venant, ce sera un aidant, et parmi ces aidants, il y a évidemment le voisin. Alors, le point que je voulais soulever, c'est qu'est-ce qu'il y a de complémentaire à la technologie? Il y a l'aidant, bien évidemment, il y a le professionnel de santé, et puis il y a l'aidant amateur, si je puis employer ce mot très, très trivial. En fait, il y a plusieurs types d'aidants. Il y a la famille, bien sûr, qui est les aidants naturels, mais la famille n'est pas toujours proche, pas toujours disponible. Il y a l'institution, bien sûr, les assistantes sociales, qui font un travail remarquable, mais qui n'est pas toujours aussi disponible. Donc, qu'est-ce qui reste? Finalement, il reste le voisin. Le voisin, celui qui est de l'autre côté du mur, dont parlait Pascal Dreyer. Donc, on peut considérer qu'il faut mobiliser, finalement, tout ce qui est complémentaire à la technologie et tout ce qui est complémentaire aux professionnels de santé. Et puis cet aidant, il doit être proche, il doit être très disponible. Alors, si on avait à mobiliser, on peut dire, ou plutôt à illustrer le propos, on pourrait se dire où est-ce que le voisin peut être utile par rapport à la technologie ou à la cybertechnologie. Alors, pour cela, avec Réunica, on a essayé de comprendre un certain nombre de choses. Et on a monté, il y a quelques mois, l'observatoire Réunica Génération Voisin pour essayer de comprendre ce qui se passait, les comportements. Et on a observé des choses assez intéressantes. On a beaucoup de chiffres que je ne vais pas forcément tout dérouler ici. Mais vous avez par exemple 77% des personnes âgées qui sont prêtes à aider les plus jeunes. Hein, l'idée, c'est aussi de se dire finalement, la technologie, c'est utile pour les personnes âgées, certes. Voilà, mais c'est aussi peut-être essayer de les rendre utiles dans leur environnement de telle sorte qu'ils se sentent peut-être plus valorisés. On a aussi monté un dispositif qui est un dispositif de mobilisation, puisqu'en fait ces aidants que je décrivais sont des aidants qu'il faut finalement animer, qu'il faut peut-être mobiliser, qu'il faut sensibiliser au fait qu'ils puissent devenir aidants alors que finalement ils n'y pensent pas nécessairement. Alors, pour revenir à mes illustrations, je pense qu'il y a évidemment le référent de téléalarme. C'est vrai que si vous voulez souscrire à une téléalarme, vous devez nécessairement avoir un proche, un hyper proche, quelqu'un qui habite vraiment à côté de chez vous, pour qu'il puisse être alerté en cas de pépin. Et puis, bien sûr, un point qui rejoint ce qui a été dit précédemment, c'est l'accès à la technologie. Si vous voulez que votre personne de 86 ans puisse faire un Skype, la solution, c'est pas de lui faire acheter une Livebox et un MacBook, c'est éventuellement de faire venir le MacBook ou la Livebox, de partager la Livebox avec lui et de lui faire accéder à Skype et de lui montrer comment ça marche, éventuellement lui ouvrir une boîte mail pour qu'il puisse recevoir les photos de ses petits-enfants qui habitent de l'autre côté du monde. Voilà quelques illustrations.
Et on peut peut-être encore développer sur Voisin Relais. Voisin Relais.
Oui, Génération Voisin peut-être, oui.
Non, le dispositif Voisin Relais pour les assureurs, mais je ne l'ai pas entendu.
Oui, oui. Alors, je développe simplement ce qui se passe sur Génération Voisin. Génération Voisin est un dispositif qui va mobiliser un réseau de particuliers qui sont déjà répertoriés comme étant des voisins solidaires et qu'on va inviter à se manifester dans leur environnement proche vis-à-vis de personnes âgées, de seniors. Hein. On va avoir pour ça une communication directe envers ces gens-là, et également des relais via les villes et les bailleurs sociaux. Les bailleurs sociaux ont évidemment un rôle extrêmement important dans ce jeu-là, et on va les mobiliser à travers des outils extrêmement simples, qui sont des petites affichettes, des petits tracts, des tout simplement des petits guides utilitaires qui vont éveiller les consciences et qui vont permettre de se mobiliser entre voisins. L'idée, c'est aussi que le voisin peut former une équipe. Chers voisins, vous n'êtes pas tout seul. Faites-le ensemble. Regroupez-vous à travers un quartier, une cage d'escalier, une résidence. Et évidemment que venir en aide à son voisin qui est plus âgé deviendra un plaisir si on le fait à plusieurs.
Merci beaucoup. On va aller tout au bout de la table avec l'industriel. C'est vous qui avez accepté d'endosser le costume de l'industriel de service, Vincent Magnon. Vous êtes le directeur de SPI Grand Est. Alors, pour SPI, le Grand Est, ça va de Lille à Montpellier.
C'est nouveau, effectivement.
C'est une conception du Grand Est qui est assez intéressante. Muriel l'expliquait à l'instant, c'est effectivement le pays va devoir s'adapter à son vieillissement et pas l'inverse. Et donc ça veut dire qu'il faut aller vers des expériences de ce qu'on appelle les smart cities, parce qu'on ne peut pas le dire en français, ou des expériences de télémédecine, non, par exemple.
Oui, tout à fait. Alors, juste avant de répondre à votre question, quand je résume un petit peu ce que j'ai entendu, il faut vite que j'aille voir si mon voisin n'a pas pris possession de la maison de ma femme pour ne pas divorcer à 72 ans. Donc, je vais vite prendre mon train tout à l'heure pour m'assurer de tout ça. C'est au moins un bon enseignement. Ceci étant... Plus sérieusement, effectivement, on travaille sur un des secteurs qui est la Smart City, qui est en français, on va dire les villes numériques, hein, qui consistent à améliorer le confort de vie et l'environnement de nos citoyens. Et effectivement, le sujet de la télémédecine fait partie de ce sujet des smart cities. Vous l'avez dit tout à l'heure, les technologies aujourd'hui permettent, alors je ne sais pas si c'est un bien, alors dans le cas de la télémédecine c'est forcément un bien, permettre cette porosité vie privée, vie professionnelle. Et dans le cas de la télémédecine, en tout cas, ça contribue au maintien à domicile. Donc on est chef de file, entre autres, d'un appel à projet qui s'appelle VHP Interactive, ville-hôpital-patient. D'ailleurs, on voit bien le concept de la ville, l'hôpital, hein, et le patient. Et dans ce consortium, nous avons effectivement notre partenaire Réunica. L'expérience qu'on a autour de cet appel à projet, de cette expérimentation, et il faut des expérimentations pour ensuite que des industriels comme nous, alors industriel SPI, c'est pas un industriel où on construit des produits, on est industriel où on construit des solutions pour passer du rêve à la réalité. Donc, très clairement, dès qu'un industriel s'attache à un sujet, le but c'est de voir si tout ça fonctionne. Il faut qu'on reste dans un monde de réalité et pragmatique. Donc globalement, à travers ces premières expériences, comme toute boîte d'ingénieurs et de techniciens, on a commencé effectivement par mettre des solutions qui fonctionnent auprès de nos seniors, de nos silver economy. Et là, même si tout fonctionne, tous les flux techniques, technologiques fonctionnent avec les capteurs IP au niveau du bracelet, avec la caméra vidéo qui surveille le patient qui est à domicile, avec les serious games qui permet de vérifier la partie comportementale. On s'est bien vite aperçu, après cette première phase, qu'on avait un problème d'acceptabilité et effectivement de porosité avec le patient. Donc on a effectivement essayé de revoir notre copie en phase 2, tout doucement, et on s'est associé dans notre consortium, dans notre écosystème, avec le département des sciences cognitives du CNRS, qui nous permet là aussi, et avec certaines associations où on a des patients volontaires qui viennent nous aider à mieux intégrer ces usages dédiés à effectivement ce type de population. Et c'est là qu'on travaille avec effectivement des départements d'actimétrie pour essayer de mesurer les activités et complètement adapter une nouvelle façon de travailler. Bon, très clairement, hein, vous l'avez dit un petit peu tous et on le redit ici, au début on fait des technologies et sa réponse, ceci étant, faut-il les améliorer. Donc là maintenant on essaye d'avoir aussi plus de pédagogie pour expliquer comment ça marche, plus accompagner. Les serious games sont plus effectivement des jeux sérieux mais didactiques et pédagogiques. On va essayer de travailler sur l'activité, donc plus sur l'analyse des comportements et des variances de comportement, plus que sur il faut avoir tel ou tel comportement. Donc là, effectivement, on retravaille complètement nos technologies de l'information en fonction de cette acceptabilité. Maintenant, on pourrait, entre guillemets, assez relativiser sur une échelle de temps plus grande, puisque nos papy-boomers d'aujourd'hui, dans 10 ans, ne seront pas les mêmes, ce sera plutôt nos baby-boomers d'aujourd'hui qui seront des papy-boomers plus tard. Et c'est vrai que cette notion d'acceptabilité des technologies va faire en sorte que elle sera beaucoup plus facile, parce qu'aujourd'hui, on sera tous un peu plus âgés qu'aujourd'hui, et très clairement, on sera aussi plus, comment dire... accessible à ces technologies. Donc c'est un sujet qui est forcément important aujourd'hui. On pense que dans le temps, il va s'effacer. Il y a cette population de jeunes qui vieillit, mais avec les technologies.
Et aujourd'hui, très concrètement, quels sont les produits que vous avez développés? Donc à chaque fois, il faut rappeler, quand vous parliez du CNRS, qu'il y a des études qui sont faites sur des populations tests qui correspondent.
Hein, tout à fait.
Comme pour un segment marketing classique, pour éviter l'écueil d'une apron numérique qui naît dans la tête de l'ingénieur génial qui n'a jamais vu une personne âgée de sa vie. Et qu'est-ce qui fonctionne le mieux, peut-être en télémédecine? Je crois que vous avez des expériences intéressantes.
Alors, il y a plusieurs types d'expériences, mais surtout des contre-expériences. Par exemple, la caméra vidéo, c'est un grand classique pour effectivement observer les comportements, mais on voit bien que là, d'entrée de jeu, il y a une notion de sécurité et d'inconfort qui se crée. Donc c'est plus effectivement des contre-expériences qu'on a eues qui nous ont permis de dire qu'il fallait qu'on travaille différemment. Bon, surtout, ce qui compte, c'est surtout la pédagogie. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut que nos experts, nos technologues s'adaptent bien à l'usage des personnes, et qu'à chaque fois qu'on en mesure son acceptabilité. Donc là, on fait travailler surtout un écosystème ensemble, un écosystème de développeurs, un écosystème de médecins, un écosystème de chercheurs, un écosystème de patients, et on essaye effectivement de mesurer toute cette chaîne qui travaille ensemble.
Alors je vais peut-être passer par vous, Thomas Godard, je vais me recentrer. Vous avez un peu entendu tout le monde, je vous ai vu prendre plein de notes. Donc effectivement, il y a des bornes à ne pas dépasser sur les technologies puisque ça ne résolvera pas tout. Malgré tout, on voit que ça peut ouvrir un certain nombre de perspectives intéressantes. Je pense évidemment au domicile, mais aussi à la surveillance en matière de médecine. Est-ce que vous pouvez nous dessiner le futur des Silver Techno avec 2-3 expériences concrètes?
Alors, je peux vous parler effectivement de deux expériences qu'on a menées ou qu'on mène chez Réunica. La première d'entre elles, c'est Réunica Domicile, qui est un espace, je dirais, de découverte dans le 10e arrondissement à Paris, qui s'étale sur 250 mètres carrés d'appartements témoins, où on a essayé de reconstituer un peu toutes les pièces de vie de façon éclatée, de manière à montrer quels étaient les aménagements qu'il était possible de faire dans un logement, sans pour autant qu'on soit justement dans le dénaturement du domicile ou dans l'intrusion. C'est-à-dire s'appuyer sur des objets, sur des technologies, mais modérément, parce qu'on pense que le trop-plein de technologies peut justement faire peur. Et l'idée, c'est d'avoir des solutions pragmatiques, abordables financièrement, qu'on pourra mettre en œuvre en une journée et qui vont améliorer considérablement le confort au sein du domicile. Et alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on parle des besoins depuis tout à l'heure. Moi, j'ai relevé que les cibles n'étaient pas faciles à appréhender. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de logique binaire en matière de silver economy. C'est-à-dire que la silver economy ne commence pas à la carte vermeille, si j'ai bien compris. On a aussi des besoins qui méritent d'être adressés et sans penser qu'on va réussir à deviner ce dont a besoin la personne, il faut viser des choses simples, sachant que au moment où elles se sentiront concernées, eh ben, elles feront l'effort de s'adapter et on n'a pas forcément besoin de générer le besoin par des objets pour technophiles qui toucheront eux une minorité de personnes. Et puis on se heurte après à l'accompagnement des silver techno. Vincent Cailleul, vous preniez l'exemple des voisins qui sont parfois indispensables pour accompagner la mise en œuvre des silver techno, des services, des produits qui sont plutôt destinés aux âgés. Et ce dont on s'est rendu compte chez Réunica Domicile, c'est que ça n'allait pas de soi. C'est-à-dire qu'on avait essayé d'appréhender la cible, on avait essayé d'appréhender les besoins, et au moment d'accompagner le passage à l'acte, c'est nettement plus compliqué parce que finalement personne ne se reconnaît dans cette cible-là. Et quand on propose d'aménager le logement, le réflexe c'est de se dire c'est pas pour moi, je repasserai dans 10 ans. Et on a trouvé des moyens un peu détournés de faire venir les personnes. On organise des conférences de prévention sur des choses qui plaisent. Alors l'atelier bricolage fait fureur par exemple, ce qui permet quelque part de trouver un prétexte pour faire venir les personnes dans cet espace, et on se rend compte que ça marche. C'est-à-dire qu'une fois que le pas est franchi, on a des résultats qui nous paraissent nous tout à fait honorables. C'est 38% des personnes qui visitent l'espace qui vont une fois retourner chez elles modifier leur comportement ou faire des petits travaux dans leur logement. Et c'est-à-dire que c'est pas le tout de définir la cible, c'est pas le tout de répondre à un besoin. Encore faut-il pouvoir toucher le public et Réunica Domicile, c'est un bon exemple sur cet aspect-là. Et puis vous me demandiez de parler de télémédecine. Rapidement, on a lancé une expérimentation dans l'Est de la France. Donc c'est Besançon, donc je pense qu'il n'y a pas de discussion possible sur le fait que ce soit l'Est. On est en train de le répliquer en région parisienne dans l'Essonne. Et l'idée, c'est de rentrer au domicile des personnes par des dispositifs de mesures, de paramètres médicaux. L'idée étant de pouvoir contrôler un peu en permanence le poids, la tension des personnes et de pouvoir lever des alertes auprès des médecins qui suivent ces paramètres 24 heures sur 24. Et on est sur des dispositifs qui sont nouveaux, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça va être reçu par les personnes. Ça s'inscrit dans un dispositif d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire on est sur de l'insuffisance cardiaque, donc il y a le médecin qui accompagne l'insuffisance cardiaque une fois que les premiers signes, que la première crise s'est déclenchée, et l'idée c'est d'éduquer le patient pour qu'il puisse vivre avec sa maladie. Et au bout de ce processus d'éducation thérapeutique, au bout de l'explication, on essaye d'amener le dispositif de télémédecine. Et on a absolument aucune idée de la façon dont ça va être perçu. On n'a absolument aucune idée de la façon dont les personnes vont se l'approprier à domicile. Est-ce qu'ils vont continuer de se peser 4 fois par jour comme c'est préconisé par les médecins, ou est-ce qu'au bout de 2 jours, ils vont laisser ça de côté parce qu'après tout, on n'a pas à contrôler mon poids, je suis chez moi et je ne laisse pas des personnes observer ce qui relève de l'intime. Et on essaye du coup d'appréhender un peu ces biais qui sont aujourd'hui mal connus en travaillant dans une approche de design social. Donc on a trouvé une designer qui travaille beaucoup là-dessus, et notamment en établissements médico-sociaux, qui va aller voir les personnes à leur domicile, avoir des entretiens de 2 heures, 3 heures, pour voir comment la personne vit chez elle, comment elle s'approprie le dispositif. Et puis après, elle va se tourner aussi vers les professionnels, qui vont, eux, expliquer comment ça doit se mettre en place au domicile. L'idée étant de voir comment tout cet écosystème s'approprie ces nouveaux dispositifs, et derrière, de proposer des scénarios d'usage qui seraient peut-être la meilleure façon de les présenter aux patients, de façon à les rendre acceptables.
Ça reboucle la boucle une première fois. Donc effectivement, avec ce que nous disait Muriel au début, dans l'exégèse de arrêter de nous prendre pour des vieux, c'est qu'il y a aussi un frein culturel à franchir du côté des personnes âgées elles-mêmes qui ne se considèrent pas comme vieilles. Et c'est en ça, effectivement, que moi, je trouve particulièrement le projet Réunica Domicile particulièrement innovant. On peut peut-être... Enfin, je sais que les experts m'ont dit qu'ils pourraient en parler pendant des heures, mais on va peut-être plutôt vous donner la parole. Oui. Il y a un micro ou pas? Parce que la salle est assez bruyante, sinon je vais vous passer le mien, parce qu'on ne s'entendra pas. Si vous pouvez juste vous présenter d'un mot pour savoir d'où vient la question.
Bonjour, Bertrand Schneider d'RTU, c'est une société de conseil. Je voulais simplement savoir, Monsieur Godard, très précisément comment ça fonctionne sur l'insuffisance cardiaque, par exemple. Quel est votre rôle? Qui est-ce qui, en fait, fait l'acte? Est-ce que c'est le médecin? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous participez financièrement? Enfin, comment ça marche très concrètement?
Alors, très concrètement, c'était le premier projet de télémédecine sur lequel on a travaillé, où effectivement, on intervient à la fois comme porteur, ce qui est plutôt original, et à la fois comme financeur. Comme porteur, parce qu'on a travaillé avec un assistant maître d'ouvrage qui avait déjà une expérience similaire en Allemagne, et l'idée, c'était de montrer que finalement le muscle cardiaque allemand était le même que le muscle cardiaque français, et on s'est dit qu'on allait essayer de développer ça sur un territoire où on est particulièrement bien implanté, à savoir du côté de Besançon. Et donc on s'est entouré de cet assistant maître d'ouvrage, on s'est tourné vers l'agence régionale de santé, qui est l'autorité compétente sur le territoire, et il est indispensable d'avoir son accord pour mener un projet de télémédecine. On s'est rapproché du centre hospitalier universitaire de Besançon, l'idée étant de travailler avec les professionnels de santé pour identifier les patients en insuffisance cardiaque, leur proposer de les équiper à leur domicile avec un pèse-personne, un tensiomètre et puis un boîtier communicant qui va récolter toutes ces informations et les transmettre à un centre de télémédecine ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc le principe est le suivant. Le CHU identifie avec le flux continu de patients, ils doivent en avoir je crois 700 par an, ils identifient certaines personnes qui sont plutôt partante pour rentrer dans un programme d'éducation thérapeutique, et en même temps que ce programme d'éducation thérapeutique, il propose tout simplement d'équiper au domicile pour suivre au long cours les paramètres médicaux de la personne. Voilà. L'idée étant de définir un processus d'escalade quand les paramètres médicaux dévient, c'est-à-dire que le centre d'appel sait précisément s'il doit contacter le CHU ou le cardiologue en ville ou le service des urgences si personne ne répond.
On a récupéré un micro, donc allez-y. La suivante. Monsieur. Ah bah ça. On va faire de la solidarité entre voisins. Le micro va finir par vous parvenir, monsieur. Ah, il y a la dame, vous voulez poser une question avant, je ne vous avais pas vu. Bah allez-y, vous l'avez. Pas de souci.
Bonjour, Aja Chabi, Société O2, directrice de l'Institut de Recherche.
Parlez bien près de...
Et je m'interroge sur une question qui me semble, de par mon poste, fondamentale, parce que je vous ai entendu parler des voisins, Vincent Cailleul. Pour autant, je m'interroge aussi sur les aides à domicile, qui constituent un réel binôme avec les personnes âgées qui peuvent être en perte d'autonomie ou les personnes en situation de handicap. Est-ce que, selon vous, elles n'ont pas un rôle à jouer? Dans quel cas est-ce que les prestataires de services comme nous n'ont pas également un rôle à jouer dans toute la pédagogie à amener auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap par rapport à l'acceptabilité de toute cette nouvelle technologie qui peuvent certes les aider, mais également nous accompagner d'un point de vue professionnel, tant sur la pénibilité, mais également d'un point de vue institutionnel et économique, de par la réduction des volumes horaires octroyés aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap et une efficacité qu'on pourrait avoir au domicile.
Oui, j'aurais une réponse très simple, en fait. Je crois que chacun a son rôle. Il est évident que par rapport aux professionnels, aux aidants à domicile, il y a véritablement un mot-clé qui est le mot complémentarité. Je crois que si j'avais à résumer la position du voisin, c'est celui de la petite goutte d'huile dans les rouages, celui qui est capable de conserver un double des clés, celui qui est capable de recevoir les repas à domicile, et c'est celui qui est capable de faire un petit peu plus aussi en complément de ce qui est déjà fait par les professionnels. Donc je ne peux être que d'accord avec ce que vous dites, mais je crois que c'est aussi un rôle peut-être aussi de prescription vis-à-vis d'un certain nombre de besoins qui sont détectés, plus dans sa vie quotidienne que peut-être dans sa vie de malade parfois. Ça peut être en effet une adaptation du logement, mais aussi ça peut être une organisation générale de la vie qui va autour de cette personne âgée. Donc oui, complémentarité, mais en aucune manière le voisin ou l'aidant proche ne peut prendre à sa charge le moindre geste médical, bien évidemment, hein, ça va de soi.
Pascal, un complément sur la question de l'aidant et du service à domicile?
Oui, alors, pardon. Voilà, c'est un grand souffle au sujet des auxiliaires de vie. Alors, d'abord, il faudrait qu'on soit d'accord ensemble sur le fait que vous acceptez de valoriser le savoir profane des auxiliaires de vie et qu'on accepte de les payer à la hauteur du travail qu'elles font, à savoir le travail le plus difficile qui soit demandé à un être humain, c'est rentrer chez trois personnes différentes, dans trois histoires différentes, dans trois cultures différentes et s'occuper de trois corps différents. Lequel d'entre nous ici accepterait de s'occuper du corps d'un inconnu, trois corps inconnus dans la journée, voire plus, dans certains services? Donc ça, c'est la première chose, reconnaître leur savoir profane, et j'ai entendu à côté de moi Muriel qui le disait, ils sont des gens qui peuvent détecter de manière fine, sensible, extraordinairement intelligente, l'état de santé, l'état psychique, l'état psychologique des personnes. Donc oui, il faut absolument les aider. Il faut aussi les former, et les former aux aides technologiques qui vont leur permettre de mieux travailler et de mieux accompagner la personne. Mais sans parler d'aide technologique complexe, pour ceux qui suivent un peu les affaires, l'introduction d'un lève-personne au domicile de quelqu'un, c'est très compliqué pour la personne elle-même. D'une part parce que ça vient stigmatiser son logement et qu'on sait très bien qu'à partir du moment où vous avez un lève-personne chez vous, vous dites adieu à vos chambranles de porte et à vos plaintes. Et beaucoup de personnes ont quand même la conscience que attaquer les murs du logement à l'intérieur de chez soi, c'est comme être attaqué soi. Et que donc on comprend bien que l'auxiliaire de vie ait besoin de se lève personne pour travailler, pour aller à la salle de bain, mais qu'on n'a pas non plus envie de vivre dans un champ de bataille. Donc là, c'est aussi du côté des concepteurs une amélioration des aides techniques. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que du côté des personnes, je vais reparler d'une expérience d'une autre personne très handicapée que j'ai accompagnée longtemps et qui a écrit un livre sur le sujet, Yves Lacroix. Yves Lacroix, en 27 ans de vie à domicile, a eu 350 auxiliaires de vie différentes. Et il disait toujours, j'ai été lavé par 700 mains différentes puisque la main gauche ne sait pas ce que fait la main droite. Et dans ces 350 auxiliaires de vie, il y a eu un certain nombre de cultures, de pays, de langues, et il a été, comme il le disait lui-même avec beaucoup de lucidité, aussi pénible que les auxiliaires de vie ont été pénibles avec lui. Donc qu'est-ce qu'on fait contre le turnover, si tant est encore que vous ayez la chance d'avoir du turnover, puisqu'il paraît que les services de maintien à domicile sont dans une grande difficulté? Et donc du coup, ce qu'il faut, c'est ce que j'avais pas dit dans ma première intervention, c'est comment est-ce qu'on maille, plutôt que de parler du besoin des personnes âgées en se disant on va répondre à leurs besoins, on comprend bien maintenant que dans l'écosystème, on répond aux besoins de plein d'acteurs différents. Et au fond, c'est pourquoi? C'est pourquoi de répondre à tous ces besoins? Pourquoi on se réunit? Pourquoi on y pense? Et à mon avis, et ça c'est l'objet du travail qu'on va faire avec Thomas et Réunica à partir de l'année prochaine, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse à quatre grandes notions qui sont au cœur de la demande des personnes âgées que nous on a rencontrées et qui étaient des gens qui avaient entre 70 et 90 ans. C'est quel confort vous me garantissez? Le confort, il est générationnel. C'est-à-dire que les gens qui ont connu la toilette au gant n'ont pas la même idée du confort que ceux qui prennent une douche tous les jours. Donc, quel est le confort que vous me garantissez? Quel est le niveau de bien-être quotidien que vous me garantissez? Les auxiliaires de vie, elles contribuent au bien-être quotidien des personnes parce qu'elles apportent de la présence et de la relation. Donc ça, c'est toute la dimension du lien social qui est très importante aussi. Et les deux autres points très importants, c'est que le domicile, c'est le lieu de la liberté. Comment est-ce qu'on garantit la liberté des personnes? Et enfin, c'est celui de la sécurité. Mais de la sécurité de qui? Est-ce que c'est la sécurité des proches et des soignants qu'on garantit, ou est-ce que c'est la sécurité de la personne? Et on sait que vivre chez soi, c'est prendre des risques.
Alors, madame, je crois que votre question a réveillé tous les intervenants, enfin, qui n'étaient pas du tout endormis, évidemment. Mais Muriel, ça vous a évoqué une pub hollandaise, et après, on prendra la question de monsieur.
Oui, moi, les 350 intervenants, moi, je me souviens quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, enfin, quand on m'a demandé la première fois de m'intéresser au sujet, je l'ai fait dans un cadre européen. Et je me souviens, vous savez, les Néerlandais, ils expriment ce qui doit se voir. Hein, il n'y a pas la subtilité latine du message subliminal, etc. Et donc, je trouve que quand j'ai commencé, c'était en période électorale néerlandaise, ne me demandez pas laquelle, j'en ai aucune idée, peu importe. Et donc, s'afficher une grande affiche d'une dame très jolie, mais au corps excessivement âgé, marquée par les ans. Et ça, c'était l'affiche. Et puis, c'était relayé par la radio, par la télé, et puis également par Dailymotion. Et donc, vous aviez cette dame qui commençait sa journée habillée, et qui, comme dans un spectacle de striptease, effeuillait ses vêtements au fur et à mesure et disait, ben voilà, moi j'en vois 6 par jour. Sauf que 6 par jour, c'était pas des clients, c'était des aides ménagères. Et donc, en disant, respectez mon corps.
Je vous vois les plus bars françaises ou françaises là, on prend. Monsieur.
Oui, docteur Cazil, je suis président d'un SIAD, un service de soins infirmiers à domicile à Amiens, dans la Somme. Et je voudrais vous donner notre regard du domicile. Bien que pour les personnes âgées en perte d'autonomie qui vivent chez elles, l'important pour nous, c'est de les sortir du domicile. C'est-à-dire que le maintien à domicile, c'est une bonne chose, à condition que les gens en sortent. Or, sortir du domicile, ça veut dire... Ça fait penser à un mot qui est un peu galvaudé, qui est le mot « animation », et qui fait rire tout le monde. Et en fait, le mot « animation », il n'y a aucun moyen financier autour. Et si on veut faire de l'animation, c'est-à-dire faire garder le lien social à des personnes qui sont en train de le perdre, il faut les amener dans des lieux avec des transports adaptés, pour faire des activités avec des professionnels. Donc tout ça, c'est un travail difficile. Et quand on y arrive, c'est souvent avec des bénévoles. Et souvent, on rate l'objectif parce qu'on n'a pas les moyens. Alors, moi, je voulais savoir comment, avec vous, sur cette estrade qui avait beaucoup de moyens, apparemment, d'après ce que je vois sur vos présentations, on peut travailler sur cet aspect du maintien à domicile qui est l'animation.
Bah, peut-être Thomas Godard.
Oui. Alors vous parlez du lien social. Effectivement, on en a peu parlé, à part effectivement au travers de Réunica Génération Voisin, mais surtout on a peu parlé du lien social en dehors du logement. Et effectivement, il y a une phrase, alors je ne sais plus de qui elle est, je suis désolé, qui dit que pour vivre chez soi longtemps, il faut aussi pouvoir en sortir. Et on partage tout à fait cette idée-là. Le lien social, il est indispensable pour vivre chez soi le plus longtemps possible. Et le lien social, il se déroule notamment à l'extérieur du logement. Sur la façon de travailler ensemble, je vous invite à venir nous voir sur le stand qui est juste autour de cette salle, et puis on pourra poursuivre les échanges. Voilà.
C'était pas un oubli, hein, c'est juste que c'était pas directement dans le cadre de la conférence. Monsieur, devant.
Oui, bonjour. Philippe Cook, je suis maintenant directeur d'un centre de prévention de la GIR Carco. Comme ça, c'est mieux.
Merci. Ouais.
Je souhaitais vous interroger à propos de la notion d'aide. Dans le cadre de nos bilans, enfin, nous rencontrons donc des personnes et à qui nous faisons des recommandations de prévention justement pour éviter réduire les facteurs de risque de mauvais vieillissement. Nous sommes donc amenés aussi à évoquer la question de l'aide. et on s'aperçoit dans un certain nombre de cas qu'il y a un refus avec une image certainement très idéalisée de la notion d'autonomie, le refus de la dépendance, et donc le refus aussi de vouloir absolument dépendre de qui que ce soit, comme si c'était seulement possible déjà, même quand on n'est pas médicalement dépendant, si j'ose dire. Et donc je voulais vous interroger, vous, M. Vincent Cayol, et peut-être Mme Muriel Boulier. Monsieur Vincent Cayol, dans le cadre de l'association que vous présidez, quelle part cette problématique a dans vos réflexions, et concrètement, est-ce que vous avez observé ce type de réaction, et qu'est-ce que vous avez mis en œuvre comme stratégie peut-être pour la contourner, peut-être effectivement Mme Boulmy a-t-elle aussi des éléments de réflexion à ce propos. Merci beaucoup.
Oui, pour répondre à votre question, je dirais que l'importance du voisinage vis-à-vis des personnes âgées, c'est d'abord le regard qu'on porte sur elles. Et le meilleur moyen de porter un regard bienveillant sur elles, c'est d'essayer de les rendre utiles, parce qu'il y a un effet miroir finalement, se dire ça consiste aussi, je vais répondre à votre question, mais j'y arrive par des contours, qui est de dire, finalement, plutôt que d'essayer de proposer quelque chose, qu'est-ce que cette personne peut faire pour moi, même si elle est âgée, et finalement, je vais aussi, par ce biais, la rendre utile dans l'environnement où elle habite. Je crois que ce qui est très important, c'est de se dire, qu'est-ce qui rassemble les gens, finalement, ce qui les rassemble le plus, c'est l'endroit où ils habitent. Rendre quelqu'un d'âgé utile à l'endroit où il habite, c'est lui donner confiance en lui-même et finalement s'aimer un peu davantage. Alors ce que nous faisons vis-à-vis des personnes âgées spécifiquement, c'est on en est au début puisqu'on a lancé avec Réunica l'observatoire et puis le dispositif Réunica Génération Voisin, mais je dirais que jusqu'à présent ce que nous faisons, c'est la possibilité d'avoir une forme de convivialité qui va permettre de bien connaître son voisin, de bien le comprendre, de bien connaître ses besoins. Ça peut aussi commencer par résoudre des petits problèmes de voisinage. Et ensuite, ce voisin va pouvoir devenir un interlocuteur valable pour des prescriptions ou ce que vous mentionnez, finalement, accepter son état et devenir un prescripteur entre pairs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'injonction, c'est moi votre voisin, je ne suis pas votre fils ou votre fille, je ne suis pas l'institution, je ne suis pas votre caisse de retraite, je suis votre père, je suis votre voisin, je suis désintéressé, et je pense que vous avez peut-être besoin de ça ou de ça. Donc on en est encore au début, et avec Réunica on travaille dessus, et je pense qu'on en saura un peu plus d'ici quelques années, enfin d'ici quelques mois.
Un complément. Oui.
Oui, parce que oui, moi je pense en effet que le premier obstacle à vaincre, c'est le déni de vieillesse. C'est-à-dire que nous avons tous autour de nous des personnes âgées, voire très âgées, dont, excusez-moi pour reprendre une terminologie, mais ça n'est pas ça, dont tu as vu, elle est vieille quand même, en parlant de l'autre. Comme dit Pascal, on est toujours le vieux de quelqu'un. Mais c'est vraiment le premier obstacle. Alors, je ne parle pas des obstacles financiers qui, eux, sont complètement lourds, mais imaginons que ceci... Et donc, ce qui est très important, c'est que la prise de conscience soit prise en commun. Alors moi, à un moment donné, je pensais que... Enfin, je pense toujours, d'ailleurs, que la grille diagnostique de la Commission de sécurité des consommateurs était un bon moyen. C'est-à-dire que vous le faites en famille... Et vous n'avez aucun obstacle à engueuler votre fille, votre belle-fille, votre gendre, votre fils, etc., en disant qu'il ne comprend rien, que de toute façon, la table elle a toujours été là, que le tapis, etc., etc. Néanmoins, après une belle engueulade familiale, les souvenirs égrenés, etc., on arrive à passer des caps. Et c'est en cela, voyez-vous, que le médian humain est un médian important, fondamental. Et ensuite, les choses suivent à condition que la personne âgée ne se dise pas « je fais rentrer l'hôpital à la maison ». Et ça, c'est la grande victoire de la salle de bain. Souvenez-vous, la salle de bain, la salle de bain américaine était considérée comme un espace de santé, parce que nous, on avait des rideaux, un nid à poussière pas possible. Et donc, désormais,
c'est la victoire de la salle de bien. Eh bien, moi, j'estime que la prochaine victoire sera un logement adapté, coquet. Et alors, je plaide pour qu'il y ait les barres d'appui de couleur, mais ça, je plaide pour ces choses-là. Mais oui, parce que vous avez des barres d'appui de couleur, ça coûte 80€, une barre d'appui, vous l'assortissez à la tapisserie. Et après tout, bon, je plaide aussi pour le confort partagé, c'est-à-dire ce qui va servir aux enfants de 4 ans, la sonnette visuelle qui fait que quand votre ado a casque sur les oreilles, de toute façon, il n'entend rien. Et donc, je plaide pour des choses comme ça, parce que c'est ça l'interpénétration des environnements et des générations. Il y aura deux médians, le médian humain et l'objet transgénérationnel. Évidemment, c'est l'iPad, hein. C'est-à-dire que on a l'iPad, on touche, on agrandit les touches et le petit-fils pique celui de son grand-père. C'est exactement cela. Enfin, je crois que les choses vont cheminer comme celle-là. J'aimerais dire un mot sur la silver economy, si vous me le permettez. Je voudrais vous raconter deux anecdotes. Une. Betty, 90 ans, autonome active. Je l'emmène dans un appartement complètement équipé, complètement. Et là, on lui donne une petite carte pour rentrer. Premier obstacle, la petite carte, tout marchait bien, sauf que à 90 ans, on n'y voit pas très bien et elle ne pouvait pas rentrer la carte dans la fente parce que c'était pas assez éclairé. Nous faisons le tour, elle est séduite par le chemin lumineux, etc. Et puis on l'explique qu'il y a une sorte de plateforme comme ça où on appuie, on associe, on a cela, et elle appuie et ça donne rien. Et donc moi j'appuie et ça me donne quelque chose. Et ben oui, parce qu'à 90 ans, on a le bout des doigts qui sont froids et qu'à moins de 90 ans, on a le bout des doigts qui sont chauds et une tablette tactile, ça répond à la chaleur du bout des doigts. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Oui, il y a de l'espoir, mais à condition que ceux qui travaillent pour les vieux se mettent en situation véritable de le jauger à l'aune des capacités des bénéficiaires.
Merci. Non, on va la trouver, cette tablette tactile qui répond aux doigts froids. Et puis, Thomas Godard a bien pris note. Je sais qu'il va parler à la designeuse sociale de Réunica Domicile pour faire des barres plus coquettes et de couleurs. On peut prendre une dernière question et après, je crois qu'on va devoir peut-être libérer la salle. Non ? Ça veut dire qu'on a fait le tour. Ça tombe bien, on avait jusqu'à 15h. Il est 15h08. Merci encore infiniment au quintet d'intervenants qui m'a accompagné. Et merci à tous.